Il est 9h41 sur France Inter, l'instant MO Tech ce matin.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'était cette nuit sur France 3, les adieux émus de Marie-Laure Augry à la rédaction de France 3. 42 ans d'infos et d'antennes, elle ne raccroche pas complètement, il reste la pétanque, vous allez comprendre. Elle a été une grande figure du journal télévisé dans les années 80. Elle a formé avec Yves Mourousi un tandem mythique au 13h de la Une. Ensemble, ils ont poussé assez loin les limites de la liberté et même de la provoque, au cœur d'une époque où la télé s'est complètement transformée et privatisée. Comme le PAF, et particulièrement l'info, bouge pas mal en ce moment, c'est assez intéressant d'y revenir, non? Bonjour Marie-Laure Augry.
Bonjour Sonia, merci beaucoup.
Ah mais non, merci à vous. Et c'est vrai que vous étiez émue hier soir, on vous a vu, et vous ont sorti, ils vous ont fait le coup des archives.
Des archives et tout, toute mon équipe a fait
voilà.
Ça. Oui, bah, c'était ça. Oui, bien sûr.
Petit nœud dans la gorge.
C'était bien sûr sympa, oui, oui.
Petit nœud dans la gorge. Allez, hashtag Instant M.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Un mot d'actu des médias pour commencer, c'est l'histoire d'un documentaire commandé par Arte Allemagne, vous savez qu'Arte est divisé en deux, l'Allemagne et la France, sur le renouveau de l'antisémitisme en Europe. Le problème, c'est que le film, intitulé « Les nouveaux visages de l'antisémitisme », livré par les deux journalistes allemands qui ont enquêté, ne correspondait pas du tout, manifestement, au cahier des charges portant le film essentiellement sur le Moyen-Orient et pas sur l'Europe. Ainsi, on a jugé la chaîne qui a décidé de ne pas le programmer. Les auteurs ont hurlé à la censure, le Bild, le très puissant tabloïd allemand, a diffusé le doc sur son site internet, polémique, très suivi en Allemagne. Arte, jugeant tout cela assez absurde, préfère montrer le film afin que chacun se fasse son avis. À voir ce soir donc à 23h si ça vous intéresse, il sera suivi d'un débat. Et puis une petite nouvelle maison, FIP a une nouvelle directrice. Elle se nomme Bérénice Ravache, elle était directrice adjointe de la musique à Radio France jusqu'à présent. Eh bien oui, nous allons parler pétanque et pas seulement info.
Cet événement que l'on considère comme le plus grand concours au monde de boules, nous allons vous le faire vivre pendant 4 jours ici même. Alors, vous avez regardé votre montre, il est 13h, c'est donc l'heure de la pause, l'heure du casse-croûte et on joue un petit peu moins pour l'instant.
D'où ça vous est venu, Marie-Laure Augry, la pétanque?
Eh bien, voilà, ça nous ramène à Yves.
C'était vrai, à Yves Mourousi?
Oui, c'était au 13h. On a découvert, et Yves a découvert comme ça par hasard ce concours en 1985.
Mm-hmm.
Et il a décidé.
Le mondial de la pétanque.
Le mondial de la pétanque. Il a été complètement fasciné par cet homme extraordinaire qui a organisé ce concours qui s'appelle Michel Montana. Et il a décidé de planter les caméras du 13h dans les allées du parc Borély. En 86, c'est moi qui ai pris le relais. Mm-hmm. Et depuis 86, je n'ai jamais raté le mondial la Marseillaise à pétanque. Et avec grand bonheur, pour France 3, depuis 21 ans. Depuis 21 ans pour France 3 quand même, vous imaginez?
C'est incroyable, mais vous êtes vous-même joueuse?
Alors, ça c'est à l'image de la pétanque. Moi je suis la joueuse du dimanche.
Oui.
Voilà, la pétanque, plaisir, loisir avec les potes, etc. Mmh. Autour d'un bon verre et tout. Voilà.
Et vous vous débrouillez pas trop mal?
Alors, je sais pointer, mais c'est tout. Et alors, à partir du moment où vos talents se limitent à savoir pointer, vous savez que là vous êtes en péril. Donc il faut être, comme on dit à Marseille, bien accompagné pour pouvoir gagner.
D'accord. Voilà. Il y a même un boulodrome qui porte votre nom dans le nord de la France.
Oui, mais alors la fois où on m'a appelé pour me proposer ça, j'ai cru que c'était surprise, surprise.
Ouais.
Mais je suis allée à l'inauguration, il est superbe ce boulodrome.
Donc vous en êtes très
fière. À Marchienne.
À Marchienne, exactement. Alors 80-88, vous l'avez dit, vous présentez le JT 13h de la Une avec Yves Mourousi. Vous en faisiez même des sketchs tous les deux de votre duo mythique.
Ça va?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'il y a?
On fait quoi là?
Ben, les titres d'abord. Hein.
Les titres de quoi?
De l'actualité.
Allez, on y va.
Bon, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? Quoi là? Qu'est-ce que tu as écrit là?
Hein?
Bon, alors, le journal va vous être présenté par nous deux. Range ton truc, hein, ça fait crade.
Range ton truc, ça fait crade. Absolument. En fait, inenvisageable aujourd'hui. C'est devenu très banal, hein, un duo homme-femme. C'est même le modèle dominant des chaînes d'infos, on va le dire, qui se sont plutôt inspirés peut-être des chaînes américaines. C'est
plutôt des chaînes américaines dans le style.
Hein, c'est l'image qu'on a de la chaîne américaine, un homme, une femme. Mais vous avez été les premiers, en réalité, en France.
Oui, on a été les premiers. Je pense qu'on a oublié qu'à 20h, en 82, il y avait aussi des couples qui présentaient le journal sur TF1. C'était Francine Buchy et Jean-Pierre Berthet, et Jean-Claude Narcy et Françoise Kramer. La volonté avait été en effet de démystifier un petit peu le présentateur unique.
Déjà ?
Oui, pour créer un duo. Voilà. Et sur...
Nous,
on a perduré. Nous.
Parce que derrière, on a installé un PPDA, etc., etc. Donc, au contraire, derrière, on a remystifié totalement cette fonction en majesté du présentateur du 20h.
Alors, on était derrière 80. Vous savez, il y avait eu beaucoup de réflexions dans les rédactions, etc. Et il y avait eu cette volonté, en effet, de démystifier ce qui était le grand présentateur.
Beaucoup de réflexions, beaucoup de ménage aussi.
Voilà. Et pour en faire, plutôt, en effet, un couple à l'antenne.
Un couple. Alors, Mourouzi, il avait déjà fonctionné en tandem. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait fonctionné en tandem avec Pernaud, mais aussi avec Michel Denisot.
Il a commencé avec Michel Denisot et Claude Pierrard. Alors, c'était un peu différent parce qu'il faisait, à ce moment-là, les journaux étaient conçus comme ça. Il y avait la partie news qui était faite donc par Denisot. Les autres, aux 20h, c'était pareil. Hein, c'était à ce moment-là Jean-Claude Narcy qui faisait la partie news. Et puis, après, et puis bien sûr, le chef d'orchestre qui était Yves. Quand on a commencé tous les deux, on s'est partager la partition, c'était différent.
C'est ça. Donc toute la question, c'était est-ce qu'il fallait un homme ou une femme, ou est-ce qu'il fallait une personnalité qui colle avec celle totalement débordante et hors norme de Mourouzi ?
Ah ben, il fallait cette personnalité-là, parce que ça aurait pu être fadas, hein, le duo. Avec Yves, on était assurés que ça ne le serait pas. Je veux dire, il avait un tel
mais
sens
vous, comment
de l'événement.
Trouver votre place ? Comment ?
Très naturellement. Non, mais alors...
Comment ne pas vous retrouver dans cette position de faire valoir face à quelqu'un qui éclatait à ce point-là ?
Non, parce que Yves avait cette attention aux autres, aux gens. Il savait, hein, il disait, bon, si ça ne fonctionne pas tous les deux, ben voilà, ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour moi aussi. Mais parce que, voilà, on s'est naturellement entendu, et puis qu'il a été extrêmement vigilant à mon égard pour faire... que je sois complètement à l'aise. Et voilà, et ça s'est terminé par une fabuleuse histoire d'amitié. Donc, c'est
alors, vous avez secoué les codes de l'info comme personne à cette époque-là. Vous avez fait sortir le JT dans les lieux les plus incroyables, les plus insolites.
Et puis à ce moment-là, c'était magique. Aujourd'hui, c'est d'une banalité totale.
C'est vrai.
Bah oui, on peut être n'importe où, à n'importe quel moment, etc. À ce moment-là, c'était déjà une performance technique.
Oui.
Hein, alors, bon, quand on allait sur une scène de théâtre à Paris, ça, c'était limité. Mais quand Yves se trouvait Place Tiananmen, par exemple, ou Place Rouge à Moscou, c'était...
Ou dans un sous-marin nucléaire, ou dans un vaste opératoire.
Enfin, je veux dire, c'était des paris techniques qui étaient incroyables à ce moment-là. Mais ils donnaient l'envie à tout le monde de se défoncer pour que ça marche.
Et puis aussi, nous, on a regardé plein d'archives de vous deux. Le nombre de fois on vous voit déguisés à la télé. Et on se dit, mais en fait, la télé des années 80 était totalement déjantée. Une espèce de liberté incroyable.
Oui, mais qu'on retrouvait dans les programmes. Hein. Regardez tous les programmes qui ont été un peu
les deux
novateurs,
Chavannes,
etc.
Et compagnie.
Voilà, je veux dire, c'était vraiment les années 80, en effet, où on se débridait. Où on osait les choses. Il y avait de la concurrence, mais pas aussi forte qu'aujourd'hui, parce que la concurrence aujourd'hui fait qu'on se marque plus à la culotte qu'on essaie d'innover. Et donc, à ce moment-là, en effet, on osait. Mais le tempérament d'Yves facilitait les choses quand même, hein, parce que, voilà.
Pas besoin de faire semblant.
Vous savez que c'est ici qu'il a fait ses classes.
Hein. Oui, à France Inter.
C'est à France Inter. Et son grand regret à Yves, c'est de ne pas voir que sa candidature n'a pas été retenue pour la présidence de Radio France. Il avait préparé cette candidature. Et puis, très sérieusement, il avait une envie folle de diriger cette maison.
Il voulait succéder à Michel Cotta, qui était la présidente de Radio France dans les années 80.
Ouais, et à ce moment-là, c'est Michel Boyan qui a été choisi. Et il est allé le voir après. Il lui a remis son dossier. Il lui a dit, voilà, j'avais plein d'idées. C'est pas moi. Je vous donne mes idées.
Alors, au tout début des années 80, les choses changent dans l'info en général, mais les choses changent aussi pour les femmes, les visages féminins de l'info.
Madame, monsieur, bonsoir. Le président Sadat est mort, assassiné. Un attentat perpétré, semble-t-il, par des éléments de sa propre armée.
Monsieur le Président, bonsoir et merci de venir à 7 sur 7 pour votre première longue émission de télévision depuis 7 mois.
Christine Ockrent, premier visage féminin. Vous commencez en 80 avec
Hélène Vida, avant elle.
Oui.
Hélène Vida qui a été la première à présenter le 20h.
Ah, j'étais persuadée que c'était aux craintes.
Non, c'est d'abord été Hélène, ouais. C'est pas ouais. été très longtemps. Moi, je m'en souviens parce que Hélène, on a commencé la présentation du journal de la nuit en 75, le même jour, en même temps. Parce que c'était l'année de la femme.
Parce que c'était l'année de la
oui,
femme.
Oui, 75, année
c'est,
de la femme.
C'est pour ça qu'on a mis des femmes à l'info.
Christian Bernadac, qui était le patron de la rédaction de TF1, a décidé, et puis la 2 a voulu faire pareil.
Mm-hmm. Avec Cochrane.
Non, à ce moment-là,
voilà, c'était... Et puis ensuite,
mais on a commencé quand même le journal de la nuit.
Hein, voilà, et puis Sinclair en 84,
après, oui,
7
après,
sur 7.
Bien après,
deux
oui,
genres
oui.
de féminité très différentes, hein, d'ailleurs, Cochrane et Sinclair, qui resteront les grands visages féminins de ces années-là. Après, c'est étonnant, parce que moi j'ai relu, par exemple, la Kyrielle de papier, quand Laurence Ferrari remplace PPDA, où on a l'impression que c'est une révolution de palais de voir une femme aux 20h. J'ai retrouvé un petit portrait de vous qui a été fait à la télé en 1980, et écoutez ce que vous disiez de vous à l'époque.
Présenter un journal télévisé pose des problèmes, notamment des problèmes d'habillement.
Je sais qu'au début, j'y faisais pas attention et je pense que ça m'a un petit peu joué des tours. J'ai reçu des lettres en me disant que j'avais l'air d'une noyée fraîchement repêchée, par exemple, parce qu'on trouvait que j'étais mal coiffée. Et petit à petit, bon, bah, j'ai fait des efforts, je crois, et j'ai compris que c'était quelque chose d'important. Au départ, j'y attachais peu d'importance.
Voilà l'arrivée des femmes à la télé, c'est ça aussi les questions qu'il a fallu se poser. Vous étiez journaliste, journaliste politique, vous suiviez la Guillet dans ses meetings.
Oui, Georges Marchais, etc. Mm. Oui, et puis ça m'est tombé dessus vraiment d'un seul coup. Quoi. Un jour, Bernadette me dit « Descends, tu vas faire un petit essai de présentation de JT, etc. » Et le lendemain, il me dit « Bon, bah tiens, samedi soir, tu feras le journal de la nuit. » Donc, j'étais pas du tout préparée à ça. Mais alors, c'est vrai que... c'est pas une obsession, mais moi, mes cheveux, c'est une obsession totale. La mèche, le machin, le truc. Voilà, et pendant 2 ans, j'ai présenté le journal avec une perruque. Somme toute, à ce moment-là, j'avais moins de soucis. Bon, je l'ai pas fait exprès, la perruque.
Vraiment ?
Et oui, mais j'avais perdu
d'accord,
mes cheveux.
D'accord, voilà. Vous étiez malade à ce
chimio.
Moment-là. Suite à une chimio. Alors, après TF1, vous avez rejoint la 5. Vous êtes à l'antenne lorsque la chaîne s'éteint. Hein, vous n'étiez pas là au début de cette aventure. On écoute votre dernier journal. Et qui faisait la bourse en direct ?
Jean-Marc Morandini.
Jean-Marc Morandini. L'archive est incroyable.
Et puis c'était ma dernière bourse. Ouais. C'est un peu difficile, surtout que quand on est jeune journaliste comme moi, on a débuté ici, on a été formé ici. Mais en tout cas, je crois que je finis bien parce que je finis avec vous. Et je crois que tout le monde est d'accord ici pour dire que vous êtes vraiment quelqu'un de formidable.
Arrêtez. Comme vous avez beaucoup de talent, mon cher, vous êtes promis un grand avenir. Et puis il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Vous nous aimez, nous on vous aime aussi. Je vous embrasse. À bientôt. La chaîne revivra. Au revoir.
Voilà, Marie-Laure Gris à la fin de la 5. TF1, dont vous étiez le visage, on l'a oublié, c'était une chaîne de service public.
Oui,
vous avez
sûr.
Connu la privatisation.
La bascule.
Vous avez connu la... Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que vous avez été témoin et acteur pendant tout ce septennat, pendant toutes ces années Mitterrand, de ces relations entre la gauche et la télévision qui ont tout transformé. Privatisation de TF1 en 87, création de TV6 en 86 qui deviendra M6, Canal+, lancé en 84, la 5 qui va être lancée d'abord puis s'éteindre en 92. Vous avez été au cœur de cette machine-là, qui est passionnante à décrypter
oui,
aujourd'hui.
La création de la Haute Autorité de l'Audiovisuel, oui. qui est le CSA aujourd'hui, qui était un acte important à ce moment-là, parce que ça faisait un peu garde-fou par rapport aux chaînes et à la
fallait.
Télévision.
Et il fallait, parce que tout ça, ce sont des grands accords
bien
entre
sûr,
le pouvoir industriel, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique.
Alors, bien sûr, la bascule de TF1 du privé au public, ça, on l'a subi, d'autant qu'à ce moment-là, tout le monde était persuadé que c'était la 2 qui allait être privatisée.
Mm-hmm.
C'est tombé sur la une. Voilà, donc ça a été un choc culturel, on va dire. Oui, parce que tout à coup, les codes n'étaient plus du tout les mêmes. Et on n'était pas habitué à se réveiller le matin avec les audiences et les cours de la bourse, avec le petit déjeuner.
Bon, il y a une séquence qui est restée mythique. Hein. C'est quand même vous deux avec Mourouzi présentant le
avec
journal.
Les casques.
Avec les casques de chantier pour souhaiter la bienvenue à Bouygues.
Ça bouge à la télé, hein. Comme dirait Monsieur Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur.
Voilà.
Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour Monsieur Bouygues. Alors, nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y
croit. Dans la joie et la bonne humeur.
En essayant d'être dans la joie et dans la bonne humeur. Un journal de qualité.
Et populaire.
Et populaire. En chantier, en tout cas. Et en chantier tout de suite, Monsieur Denis Vincenti.
Mais qui oserait faire ça aujourd'hui?
Yves peut-être, hein. Je veux dire, parce que, je vous dis, il était hors norme.
Ça vous a ému de réécouter
oui,
ça
oui, de réécouter. Ouais. Oui, parce que, je veux dire, voilà, cette période de la privatisation, tout à coup, oui, ça a été un choc. Et puis, voilà, après, les choses évoluent. Mais, oui, bien sûr.
Et enfin voilà, c'est vrai que quand on revoit toutes ces images, on pense voilà à la grande grève.
Mais le casque, en effet, ça, mais c'était la. Mais ça, c'est pas un truc, c'est un truc qu'on a décidé 10 minutes avant de descendre sur le plateau. Tout d'un coup, ah oui.
Enfin, vous en avez été viré quand même. Hein.
Oui.
Vous en avez été viré tous les deux.
Parce que ça, cette impertinence,
ça, c'est pas passé.
Ne passait plus après. Il fallait montrer qu'il y avait d'autres. Et puis on était la référence du temps d'avant. On était la référence du service public, quoi. Donc fallait un peu changer. Moi, Francis Bouygues un jour me croise et me dit, il venait juste d'arriver. Vous savez, Marie-Laure, ici, un jour on est à Riyad et le lendemain on est à Stockholm. Sur la vie de chantier.
Sur la
donc,
vie de chantier.
Voilà, ça voulait dire, c'était un petit signe avant-coureur. C'était une indication.
Bien sûr, bien sûr. Alors, le service public, donc vous avez fait ce crochet par la 5, ce crochet par RMC, vous avez rejoint Yves Mourousie, etc. Mais c'est quand même toute votre histoire et toute votre vie, le service public. Ça fait des années que vous occupez ce poste qu'on appelle médiateur à France 3, médiateur de l'info. En plus, vous avez mis en place des choses très intéressantes, c'est-à-dire que vous animez carrément une émission, vous faites venir les téléspectateurs de France 3, vous les confrontez en plateau à des journalistes. La dernière était cette nuit, je l'ai dit. Comment vous avez vu ces téléspectateurs évoluer au fur et à mesure des années? Comment vous avez vu leur regard s'affûter sur l'information télévisée?
Alors, il y a une constante qui est très réconfortante, c'est un attachement très fort à la notion de télévision publique. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement réconfortant. Mais en même temps, ça entraîne une grande exigence à notre égard. Tout dérapage est tout de suite pointé du doigt. Alors, la grande évolution, elle est venue surtout dans la manière dont le téléspectateur, l'auditeur aujourd'hui nous reçoit. Enfin, bon, c'est fini, le grand rendez-vous du 20h. Donc, chacun est acteur de l'information parce qu'il a ses alertes info, parce qu'il partage l'info, parce qu'il la commande tout au long de la journée.
Et du coup, le regard critique du téléspectateur a beaucoup changé.
Le regard critique, c'est à la fois affûté. En même temps, il s'estime un peu journaliste lui aussi.
Oui.
Donc, il peut être à même de contester des choix qu'on fait, mais c'est là que c'est intéressant de le discuter avec lui et de le confronter à ça. Et avec une soif de savoir, en fait, mais vous, comment vous fonctionnez, vos choix, la hiérarchie, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, et moi, je pense que vous devriez pas faire ceci ou pas faire cela. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'émission trouvait un sens à ce niveau-là, c'est-à-dire, on n'est pas à part égale.
Non.
Parce qu'ils attendent de nous autre chose, hein. Dans ce flot de l'information et d'informations fausses, bonnes, pas, on ne sait plus qui croire ni rien. Je pense que ça renforce notre rôle de journaliste.
Et vous voilà, avez mis en place en plus un réseau de téléspectateurs guetteurs, c'est-à-dire des téléspectateurs avec qui vous avez eu coutume de dialoguer très régulièrement toutes ces dernières années.
Oui, on en a, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, 300, 400, voilà. Ouais. Qui sont des fidèles, à qui on suggère le thème de l'émission tous les mois, qui apportent leur contribution, et avec qui on a des contacts réguliers. Alors, c'est intéressant parce que là, on est plus dans un petit peu la réflexion et l'approfondissement parce que l'évolution...
On n'est pas dans le tweet épidermique. Hein.
Voilà.
Voilà.
Alors, ce qu'on ressent, en effet, oui, ces derniers temps, c'est qu'en effet, il y a une forme d'agressivité qu'on n'avait pas avant, y compris dans la manière dont on s'adresse à nous.
Voilà. Ça, merci les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Marie-Laure Augry. Du 2 au 7 juillet, c'est donc le mondial de la pétanque.
Voilà, sur France 3,
c'est
le matin.
C'est à Marseille. Et sinon, c'est sur France 3, le matin. On vous souhaite de très 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 belle partie et à très bientôt.
Merci beaucoup Sonia.